On s'est rendu compte qu'il y avait une loi sur le terrorisme qui avait été adoptée en 2008 et qu'il fallait mettre cette loi à jour parce que les contextes ont changé, il y a beaucoup d'évolutions dans la situation. Et c'est à ce titre que nous avons décidé d'appeler les chercheurs maliens, les chercheurs marocains et des chercheurs nigériens pour qu'ils se retrouvent, discuter un peu de ce fléau et essayer de trouver une politique publique pour le Mali, pour la lutte contre les semi-violents.
Qu'est-ce que dit cette loi de lutte contre le terrorisme?
L'ancienne loi étant tellement vague, parce qu'il n'y a même pas de définition à ce sujet dans la loi elle-même, elle est très vague parce qu'elle parle de beaucoup d'aspects sur les détournements d'avions, les détournements de bateaux. Donc nous, on s'est dit qu'il faut impérativement une loi qui soit encore beaucoup plus ouverte par rapport à la situation, parce que le terrorisme même a évolué. Dans le temps, il n'y avait pas de détonation à distance, il n'y avait pas de cybercriminalité. Bon, tout ça doit être intégré dans nos lois.
Alors, cette rencontre se tient au moment où l'extrémisme violent sévit au nord du Mali, en particulier le terrorisme. Quelles seront les voies et moyens qui seront prises pour contrecarrer leurs actes?
Le terrorisme est maintenant partout au Mali. Il y a des souches dormantes, il y a des cellules dormantes qui existent un peu partout et sûrement, certainement à Bamako selon certaines analyses et statistiques. Mais maintenant, il va falloir trouver certaines préventions. Pour cela, les experts sont là. Il va falloir trouver certaines astuces, certaines préventions à faire par rapport à cette lutte-là. Et voir, par exemple, si je dois rentrer dans des exemples assez précis, comment contrôler peut-être les prêches radicales. Comment contrôler peut-être l'ouverture de certaines écoles coraniques ou médersa. Il y a eu une étude qui avait été faite à Gao, où on avait demandé à Gao, aux autorités qui étaient là-bas, de nous dire combien d'écoles coraniques ou médersa existaient. Le chiffre qu'ils nous avaient donné était multiplié carrément par 10 par rapport aux écoles qui étaient réellement ouvertes. Et ça, ce n'est que la région de Gao, hein. Donc ça veut dire partout, même à Bamako ou ailleurs, il y a peut-être un problème où les autorités n'ont pas les vrais chiffres par rapport à certaines situations. Et également, le rôle même des autorités vis-à-vis de la population. Parce qu'il y a certains aspects où les jeunes peuvent intégrer les groupes armés par besoin financier, parce qu'ils n'ont pas autre chose à faire. Ils intègrent certains groupes, c'est facile de les recruter. Comment prévenir tout cela? Si on s'en tient à dire qu'il faut juste créer des emplois pour régler le problème, surtout au niveau de la jeunesse, ça risque de prendre beaucoup, beaucoup de temps. Donc il faut déjà imprégner ces gens de la gravité de la situation. Quand on rentre dans un groupe extrémiste violent, qu'est-ce que ça conduit? À quoi ça revient? C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il faut? Qu'est-ce que ça revient de faire dans la société. Il faut que également qu'on puisse parler un peu de la résilience de la population parce que les actes terroristes sont là pour terroriser la population. C'est-à-dire que ces gens mènent des actions pour que les gens aient peur. Donc le système de résilience, c'est de voir à ce que la population puisse automatiquement réagir après des attaques pour montrer que cette peur-là n'est pas là.